Question d'islam par Al Bunshir. Aujourd'hui, nous parlerons dans cette émission Question d'islam de sacrées questions pour un islam d'aujourd'hui. C'est le titre d'un ouvrage paru très récemment aux éditions Odile Jacob et l'auteur est Fawzia Sharfi. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Fawzia Sharfi. Vous êtes une femme de science et d'intelligence. Vous êtes physicienne. Vous enseignez à l'université de Tunis. Vous avez eu aussi des responsabilités gouvernementales. Vous étiez secrétaire d'État à l'enseignement supérieur dans le gouvernement de transition provisoire, mais vous avez très vite voulu reprendre votre liberté de temps et de parole. Et c'est dire que vous êtes aussi une femme de décision et de réflexion. Et nous parlons de votre ouvrage intitulé « Sacrées questions pour un islam d'aujourd'hui » qui fait suite à un autre livre intitulé « La science voilée », toujours chez le même éditeur. Vous qui êtes une femme de science, comment êtes-vous amenée à parler, et j'ai vu que vous étiez très versé en lisant votre ouvrage, dans les questions théologiques. C'est une question qu'on pose aussi à votre serviteur, donc c'est votre regard et votre réponse qui m'intéresse.
Je suis partie en fait des réflexions de mes étudiants sur l'islam, de leur manière de concevoir la science, de leur refus de certaines théories. Bon, je l'explique un petit peu dans l'introduction, comment il refuse la relativité générale, comment il refuse Einstein. Et j'ai poursuivi pendant des années, en fait, cette discussion qui avait commencé fin des années 70 à la faculté des sciences de Tunis, où l'islam politique commençait à être présent. Bon, c'était aussi l'époque de la révolution iranienne. Et ces discussions m'ont amené à aller plus loin dans la compréhension de l'islam, politique, mais aussi d'essayer de voir comment, en fait, ces étudiants, en quelle mesure ils étaient différents de ce que je pouvais être, moi, à leur âge. C'est-à-dire que, pour nous, au moment de l'indépendance, nous étions aussi très, très fiers d'être tunisiens. Bon, moi, j'ai fait ma scolarité. La majorité de ma scolarité, c'était encore le protectorat. Et donc, on voulait s'affirmer aussi comme musulmans. Mais cet islam, c'était l'islam de mes parents, de mes grands-parents. Et c'était un islam qui était ouvert, qui ne nous perturbait pas dans la mesure où il nous autorisait aussi à être très modernes et à être preneur de science.
D'emblée, vous commencez par dire que l'islam n'est pas épuisé par cette notion de charia que vous déconstruisez.
Tout à fait. Et je vous avoue que la notion ou l'importance de la charia, je l'ai découvert en dehors du milieu familial. Parce que pour mon père, évidemment, pour les enfants, eh ben, on a envie plus de leur transmettre voilà, la beauté du monde, la générosité, le respect de l'autre. Bon, mais la charia, c'est autre chose. La charia, c'est une somme de prescriptions dont la plupart ne sont pas compatibles avec ce à quoi nous croyons, en tout cas, à quoi aussi mes parents croyaient, c'est-à-dire les valeurs universelles de liberté, de respect de l'autre, d'égalité entre les hommes et les femmes, d'égalité entre tous. Et la charia, c'est tout le contraire, et on s'en est rendu compte en Tunisie. Vous parlez de la révolution, on s'en est rendu compte quand il a fallu rédiger une nouvelle constitution tunisienne. Et le grand débat initial, c'était est-ce que la constitution doit affirmer qu'elle prend sa source dans la charia ou pas?
Et vous le montrez clairement, la charia finalement n'est qu'une construction humaine.
La charia n'est qu'une construction humaine qui s'est élaborée sur 2 siècles, on va dire, à peu près, après la révélation. Et certaines dispositions d'ailleurs de la charia sont contradictoires avec un certain nombre de versets coraniques.
Et même les versets coraniques dits prescriptifs ou normatifs ou législatifs sont en nombre très réduit dans
tout,
le corpus.
Tout à fait. Sur les 6200 à peu près 36. Versets, 36, voilà, il y a, entre, suivant les interprétations, entre 200 et 500 versets prescriptifs. Et donc, beaucoup de questions comme, par exemple, l'apostasie, la condamnation à mort du renégat, ça n'est pas une prescription coranique. La lapidation des femmes adultères, la même chose, ça n'est pas une prescription coranique. Même certaines questions, bon, que nous avons réglées, on va dire, en Tunisie, la question de la polygamie, si on lit les versets coraniques, bien pour qu'un homme puisse être polygame, il y a des conditions bien strictes qui pourraient amener au fait que c'est quasiment impossible d'être oui. polygame.
Enfin, le terme technique étant la tétraginie, puisque c'est l'homme qui aurait un droit ouvert d'avoir quatre voilà. épouses et pas dans l'autre oui. sens. Et en plus, si on prend in globo les versets, il y a une sorte d'incitation, voire une injonction à la stricte monogamie, sauf que le discours est un peu sibyllin et ça se comprend pour l'époque.
Absolument, absolument. Mais il se fait qu'aujourd'hui, alors dans la Tunisie moderne, la Tunisie qui a vraiment marqué en fait le monde arabe par son code du statut personnel adopté en 56, quelques mois après l'indépendance, la polygamie donc est abolie, mais vous voyez que dans notre système éducatif de ce pays moderne, eh bien, je cite qu'une de mes filles a eu un cours de philosophie. De philosophie, donc l'année du bac, sur les avantages de la polygamie, qui était donc abolie depuis un certain nombre d'années.
C'est une régression terrible.
Et c'est une régression, et c'est ça qui marque finalement. Parce que lorsqu'on nous parle d'islam politique en disant, mais de toute façon, oui, ils sont dans le... Ils peuvent être acceptés aujourd'hui, ils sont modérés. Comment peut-on accepter aujourd'hui que, voilà, qu'en Tunisie, on revienne à la polygamie, alors qu'on venait de dire qu'au fond, pour ceux qui veulent vraiment appliquer le texte coranique, ils pourraient ne pas être polygames, vous voyez ?
Oui, bien oui. sûr. Alors, si je récapitule, et si je vous ai bien compris, alors que vous le dites clairement, à supposer qu'il faille se référer nécessairement au corpus coranique, on trouve que les versets dits normatifs ne sont que de l'ordre en gros de 1/30 par rapport à l'ensemble du corpus coranique, ce qui sous-entend que sa finalité première n'est pas nécessairement le fait de légiférer, donc de déléguer aux hommes de gérer leurs affaires entre eux. Et deuxièmement, et nous le verrons tout au long de l'émission, c'est que à un moment donné, il y a un souffle de modernité qui a prévalu dans la Tunisie post-indépendante, et petit à petit, tous ces acquis-là vont être reniés, et nous essaierons de voir avec vous, de comprendre pourquoi.
Et oui, malheureusement, donc ces acquis qui datent des années 56 et qui concernent beaucoup le statut de la femme. Bon, le statut de la femme qui est triste dans la plupart des... Je dis triste parce que la femme est vraiment recluse dans certains pays arabes. Donc, on a vu depuis un certain nombre d'années... même, je dirais, même avant la révolution de janvier 2011, à chaque fois que les islamistes se sont sentis en position de force, ils ont toujours cherché à acquérir comme ça à gagner des points et à faire régresser finalement un droit qui est un droit relativement moderne. Je dis relativement moderne parce que le code du statut personnel n'est pas complètement égalitaire. Je l'explique bien.
À propos de voilà. la dévolution successorale sur laquelle vous voudrez revenir, vous en faites aussi un point fondamental pour moderniser le droit et laisser place à la législation positive.
Tout à fait. Et alors, il y a deux manières de voir cette revendication légitime pour les femmes d'être considérées comme les égales des hommes. Et donc, sur la question successorale, Il y a un grand débat actuellement en Tunisie parce que il y a un projet de loi à l'Assemblée des représentants du peuple, j'explique bien dans Sacré Question, qui fait que, voilà, aujourd'hui, un certain nombre de femmes, dont je suis, nous considérons que la Constitution a consacré l'égalité entre les hommes et les femmes, et donc nous devons appliquer ce principe d'égalité sur toutes les questions, y compris la question de l'héritage. Alors certains peuvent penser que la question de l'héritage est une question qui touche surtout les femmes d'un certain milieu, etc. Mais en fait, si nous sommes attachés, d'abord c'est la question du principe bien d'égalité, entendu. Mais aussi le fait que dans nos pays, il faut voir la condition des femmes rurales, la condition des femmes ouvrières. Ce sont des femmes qui sont les premières lésées par cette inégalité, et en particulier les femmes rurales, quand il s'agit de partage de l'eau de terrain sur lequel elles travaillent. Donc, vous voyez, c'est aussi un problème social. Ça n'est pas qu'un problème théorique. Et bon, moi, je me rappelle que mon père était très, très attaché à la question de l'égalité qui finalement aussi va très loin. Je suis scientifique, vous le disiez, je suis physicienne. Et il est vrai que comme j'avais aucune difficulté en mathématiques, en physique, et mon père, contrairement à ce que beaucoup de pères faisaient à l'époque, m'a vraiment encouragé à faire des études scientifiques, de sciences dures, en plus la physique, il n'y a pas beaucoup de femmes en physique, en considérant qu'il n'y avait aucun problème et que même si je devais être minoritaire dans l'amphi, eh bien c'était l'avenir. La physique, la science, c'était l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour moi.
Bien. Fawzia Sharfi, pardonnez-moi d'avoir des questions qui vous poussent à répondre comme ça un peu tous azimuts, mais c'est pour dire la densité du sujet que nous n'épuiserons ni aujourd'hui, ni hélas tout au long de ces émissions intitulées « Questions d'islam ». Et votre ouvrage, c'est « Sacrée question », à juste raison. J'étais heureusement, l'adverbe est réel, de lire la première partie qui est de facture théologique. Donc, vous questionnez le statut même de la révélation, le dogme réel ou supposé de l'illettrisme du prophète. Il y a aussi la question de, on en a parlé, de la loi de Dieu, etc. Comment êtes-vous amené petit à petit à vous intéresser à ces questions éminemment théologiques?
Alors, j'ai commencé à connaître certaines questions relatives au droit et l'islam, la question de l'État et l'islam, beaucoup grâce à mon mari, Mohamed Sharfi, qui était juriste, mais aussi qui a été formé dans cette double culture. Et bon, mon beau-père était théologien, donc il a baigné dans cette culture. Donc déjà assez tôt, la question de l'islam et puis certaines questions bien bien approfondies m'intéressaient. Et j'ai cherché à aller plus loin toute seule. Malheureusement, mon mari est décédé en 2008. Et quand j'ai commencé à écrire donc La Science Voilée en 2010, 2011, j'ai repris après la Révolution. Bon, ça m'a amené déjà à m'interroger sur l'islam. Mais aujourd'hui, je suis allée plus loin parce que je trouve que dans ce monde de violence, dans ce contexte où l'on parle de l'islam, je voulais rendre visible l'islam apaisé, l'islam de mes parents, de mes grands-parents, et un islam qui revendique en fait l'analyse critique, qui autorise le regard historique aussi, mais en même temps un islam qui porte en lui, oui, les valeurs de liberté et d'égalité, comme je disais tout à l'heure. Et pour que mon propos soit plus fort, en fait, et plus convaincant, je me suis plongée dans des lectures de ces penseurs, alors on va dire d'abord Mohamed Abdou, le 19e siècle, mais jusqu'où pouvait aller Mohamed Abdou, ça m'a intéressée. Et puis, voilà, les Mahmoud Hussein avec leur sirah. Et
la Sira étant la biographie du prophète, un peu la légende dorée, voilà, pour certains, plutôt qu'un curriculum vitae.
Tout à fait. Et bon, Ali Mazrani sur la question du droit
de l'état inachevé.
Abdelmajid Sharfi, qui, alors, dont la lecture m'a énormément apporté pour écrire ce premier chapitre, donc qui fait bien la différence entre le message et l'histoire, et ça m'a permis en fait de montrer, voilà, comment il y a la révélation et puis après il y a eu l'institutionnalisation de la religion. Mais si je reviens sur la révélation aussi, il y a eu des questions en fait que je voulais approfondir parce que j'ai beaucoup regardé comment on présentait l'islam sur Internet, sur les sites Internet, pour essayer de comprendre ce que me disaient mes étudiants, en fait, qui avaient une vision de l'islam un peu bien différente de la mienne, à vrai dire. Et j'avais envie de répondre à ces étudiants et de leur dire qu'on pouvait penser autrement. Et en fait, dans ces sites Internet, voilà, ce qui est présent, c'est les hadiths, c'est-à-dire les actes et dires du prophète. Ce qui est présent, c'est la charia. Ce qui est présent aussi, c'est, oui, le prophète était illettré, donc voilà,
c'est un miracle.
Alors, c'est pas seulement un miracle littéraire, mais c'est aussi un miracle scientifique. Et donc là, il me fallait donner quelques arguments puisés dans ces lectures qui m'ont passionnée. Et bon, j'espère que, voilà, pour celui qui va lire ces sacrées questions, c'était pour moi le point de départ, en fait, de cette présentation d'un islam, bon, comme je disais tout à l'heure, apaisé, d'un islam qui prône l'intelligence aussi, la responsabilité du musulman, ça. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, voilà, c'était un message aussi très important que je voulais faire. C'était ma réponse à mes étudiants, mais ça c'est un petit milieu, mes étudiants. Mais c'est aussi ce que j'ai envie de dire même en dehors de la Tunisie, dans ces pays européens, dans un pays comme la France, où il y a une majorité de musulmans qui se trouvent comme ça piégés entre des extrêmes, entre. Alors, je crois que des voix comme la mienne, encore une fois, j'en parle en disant tout modestement, je crois que nous devons être entendus si nous voulons arriver à résoudre un certain nombre de problèmes. Et juste pour terminer, en fait, si je pars des étudiants, vous voyez que la question de l'éducation, elle est fondamentale.
Elle est centrale, ouais, cruciale, ouais, au centre d'enjeux, ouais, véritables. Fawzia Sharfi, vous avez dit modestement, permettez-moi de dire que vous êtes l'une des porte-paroles, ou en tout cas, vous êtes dans ce courant dit moderniste et vous le représentez si bien. Vous avez évoqué Mohamed Sharfi et son ouvrage « Islam et liberté, ouais, fait autorité ». Vous, ouais, vous y référez, ouais, souvent dans votre propre livre. Son homonyme Abdelmajid Sharfi, et notamment avec cette notion de distinguer le message de l'histoire. Donc l'idée fondamentale de dédogmatiser l'histoire qu'on a sacralisée, et on a une sorte de religion qui serait anhistorique, alors que la révélation elle-même s'articule dans l'histoire et se transmet à travers des cultures.
Oui. Et c'est ça la grande question. Il faut revenir, pas revenir, je n'aime pas trop revenir parce qu'on a l'impression qu'on idéalise le passé. Non, mais il faut pouvoir lire le passé avec intelligence. Et ne pas considérer que, bon, le passé est réduit à quelques, voilà, un siècle, en tout cas en tant que scientifique, souvent on dit le siècle de l'âge d'or. Mais non, ça a duré d'abord plusieurs siècles, pas seulement un siècle ou deux. Et en même temps, il faut avoir un regard critique, parce que quand on relit finalement toute cette histoire, oui, il faut dédogmatiser cette religion. Et c'est, si on ne le fait pas, je pense qu'on ne pourra pas opérer la rupture nécessaire.
Et aussi avoir un regard sur l'histoire qui ne soit pas que linéaire, mais plutôt global et panoptique, comme on dit. L'histoire comme une anthropologie du passé, avec un regard critique sur les systèmes de cultures et de pensées, mais surtout comme une archéologie du temps présent. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Fawzia Chalfi, auteur de Sacrées questions pour un islam d'aujourd'hui, paru chez Odile Jacob. Et nous saisissons l'occasion heureuse de son passage à Paris pour avoir cet entretien avec vous, Fawzia Chalfi, et vous qui enseignez à l'université de Tunis la physique. Voilà une représentante des sciences dures, des sciences exactes, des sciences pures, et vous répondez à vos étudiants qui, eux, en tout cas certains d'entre eux, sont dans une vision peut-être un peu naïve et concordiste de la religion, de la révélation. Les avancées scientifiques ont de tout temps, ab aeterno, se trouver dans la révélation.
Tout à fait.
Et donc vous voulez tordre le cou à cette vision.
Et oui, je veux tordre le cou à cette vision qui les empêche, en fait, de penser la science. Parce que toute la question est là. Comment amener nos jeunes à penser en étant libres? Et aucune religion n'interdit à un croyant de penser librement aujourd'hui. Et c'est ça, ce à quoi je voudrais amener, parce que ça, c'est aussi mon appel à mes jeunes étudiants ou moins jeunes étudiants, parce que cette vision concordiste, finalement, est très, très partagée. Elle est très présente sur la toile. Il m'est arrivé de voir et de rencontrer, de discuter encore ces derniers temps avec des jeunes lycéens qui sont tout à fait séduits par cette vision qui les conforte, dans la mesure où, voilà, bon, cet Occident dominant, etc., n'a pas inventé la science. La science existait dans le courant depuis 14 siècles. Et donc, je crois qu'il faut, ça paraît peut-être secondaire, mais ça ne l'est pas. Il faut reconstruire, en fait, tout ce schéma de pensée et faire en sorte que, voilà, nos étudiants soient convaincus que la science est autonome, qu'il y a la sphère du religieux et la sphère scientifique, et puis après, on peut admirer le ciel et faire son chemin personnel. À ce moment-là, faire en sorte que ces deux chemins, voilà, celui de la science, se rejoignent.
Selon la formule consacrée, la science nous dit comment est le ciel et la religion dit comment on va au ciel.
Voilà.
D'une manière anecdotique, on rapporte, c'est pas la peine de donner son nom à l'antenne, qu'un éminent mathématicien, mais gagné par les thèses islamistes, disait que de droites parallèles ne se rencontrent jamais, sauf avec la permission de
Exactement.
Dieu. Or, hélas, l'axiomatique d'Euclide veut que ces deux droites-là ne se rencontrent pas avec ou sans la permission de Dieu, si je puis dire, puisqu'on n'est pas dans le même registre épistémologique. Ouais. Fawzia Chalfi, peut-être avant d'avancer, et si vous le voulez bien, abordons encore une autre question théologique que vous avez tranchée, c'est la notion du Coran créé, incréé, qui nous a un peu engourdi, le « nous », c'est d'abord nous autres humains, mais peut-être ça concerne davantage les musulmans. Vous l'avez tranché avec cette affaire de revenir au débat entre les Mu'tazilites et ceux qui finalement ont triomphé contre eux, et vous donner les raisons historiques et politiques même de cette époque-là. Et si simplement pour les auditeurs, vous voulez bien donner un peu les données de ce débat et quels sont les arguments qui sous-tendent votre propre position en l'ayant tranché dans le sens du Coran créé.
Alors cette question qui peut paraître très loin de nos préoccupations, en fait, est-ce que le Coran est créé ou incréé, incréé, c'est-à-dire il est là de toute éternité. Et
co-naturel à Dieu ou consubstantiel à Dieu.
Consubstantiel à Dieu, et c'est affirmé, en fait, pas seulement dans certains livres de théologie, mais c'est affirmé dans les sites qui présentent l'islam, comme je disais tout à l'heure, les sites internet. Donc c'est ramené à une question finalement banale. Et ça a été le grand débat, la grande question donc du temps des Mu'tazilites, qui considèrent que le Coran donc est créé, et c'était lié, cette question était liée aux attributs en fait de Dieu. Alors la parole de Dieu, pour les Mu'tazilites, le fait de considérer que finalement le Coran est incréé, je ne sais pas si je vais pouvoir bien l'expliquer comme ça, c'était une manière de remettre en cause l'unicité de Dieu, puisque à côté, il y avait Dieu, et la parole de Dieu, elle aussi éternelle, et donc, en fait, c'est une contradiction par rapport au principe qui est fondamental dans l'islam, c'est-à-dire l'unicité de Dieu.
D'une part, je vous en prie. Non, c'était simplement pour nos amis auditeurs de dire qui sont les Mu'tazilites. C'est une école rationaliste.
Voilà.
Parce que ce n'est pas aussi évident pour eux, d'une part. Et d'autre part, mais je vous laisserai le développer vous-même, les conséquences de cette notion de Coran incréé font en sorte que, du coup, quand la parole de Dieu, elle épouse les contingences humaines, est-ce que ça l'a été prévu de tout temps et de toute éternité,
oui,
ou est-ce qu'il faut tenir compte du comportement des hommes?
Alors, toute la question, et c'est pas par hasard, donc, que cette notion difficile existe dans ces sites islamiques, parce que la conséquence d'un Coran éternel, incréé, etc., fait que aucune interprétation n'est possible. Aucune pensée, on va dire, aucune réflexion n'est possible sur le texte sacré. Et donc, a fortiori, aucune contextualisation du texte coranique n'est possible. Et donc, voilà, c'est la fermeture finalement totale. Pour le croyant, il va être amené à une interdiction, en fait, de toucher à ce texte inimitable. Il est certainement inimitable, mais ce texte qui ne peut pas être...
Sur le plan stylistique.
Voilà, sur le plan stylistique, qui ne peut pas être discuté et interprété. Et la question de l'interprétation personnelle, pour moi, elle est fondamentale. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, il est fondamental d'être convaincu que l'islam n'interdit pas aux musulmans d'être responsables de ses actes, d'être libres aussi de réfléchir. Et il est vrai que là, la tradition interdit aux simples croyants de se prendre des libertés, je vais dire. Mais la question de la liberté, elle est fondamentale. Bien sûr, je ne dis pas que le Coran est un texte difficile. Il est difficile à comprendre.
Il est même déroutant.
Il est déroutant. Mais lorsque on apprend à nos petits quelques versets du Coran, ils sont sensibles à ce texte. Bon, effectivement, on peut très bien l'amener à lire quelques versets, à les comprendre, et aussi à se les approprier. Mais ça, c'est ce qui est interdit par la tradition, puisque la tradition dicte ce que le croyant doit faire, ce qu'il doit penser, pas seulement à travers sa vision, mais par rapport à, justement, on y revient, à tout ce corpus de textes qui est défini une fois pour toutes.
Et encore une fois, cette tradition n'est qu'un amoncellement du commentaire sur le commentaire, et c'est aussi une construction humaine.
C'est une construction humaine, et les grands écrits, par exemple, de Fazrul Rahman, indo-pakistanais, donc milieu du 20e,
Il est mort en 1988.
Oui. Et qui considère qu'il ne peut pas y avoir d'évolution de la religion musulmane si on ne s'autorise pas une critique des hadiths. Et il va très loin dans ce refus, en fait, d'une religion encombrée de prescriptions, encombrée de textes. Je cite quelques passages de ces textes dans mon ouvrage.
Et vous dites à juste raison que entre le premier maître éponyme, celui qui a fondé la première école juridique, l'école des Hanafites, Abu Hanifa, oui, est mort en 767, oui, et le quatrième, Ahmed ibn Hanbal, oui, qui lui est mort en 855, il y a eu une inflation de hadiths. Oui. Le premier n'en retient que 17,
voilà,
et le dernier, le quatrième,
40 000, dit-il, sur 700 000 hadiths. Donc vous voyez qu'il en a, pour lui, il a fait un gros effort d'arriver à 40 000. Bon, et le premier, ensuite on est passé à 300. Donc vous voyez, quand même au début, parce que ces hadiths, bon, peut-être pour le lecteur, il faut expliquer que malgré tout, au début, il fallait une garantie, en quelque sorte, d'authenticité de ce rapport des dires du prophète, etc. Et puis petit à petit, ben oui, les hadiths, pour ceux qui veulent feuilleter ces sommes de hadiths, traitent de tout. Donc le musulman n'a qu'une seule chose à faire, c'est de lire cette somme de hadith et de savoir, voilà, comment il va sortir de chez lui, comment il va boire sa bouteille, etc., et tout ce qu'il a à faire.
Donc ça va corseter le comportement des hommes et ça les contraint dans leur vie de tous les jours, et ce n'est plus une vie.
Et ça n'est plus une vie, et ça n'est plus un être pensant. Et c'est ça qui est quand même remarquable. Alors, après, pour revenir à la science, vous voyez, après on dit oui, mais c'est bizarre quand même, dans le monde arabe, on a très peu de très grands savants. Oui, on a eu Abdeselem, prix Nobel de physique.
Bien qu'il soit, qu'il ne fût pas arabe.
Il était, pardon, oui, c'est le monde musulman, oui, je voulais dire, surtout. Et après, l'Égyptien Zawel, qui est décédé il y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que, voilà, parfois, alors que nous avons des jeunes brillants, etc., mais on doit s'interroger sur le fait que pourquoi on n'arrive pas à aller aussi loin. Il faut une révolution scientifique aussi. Il faut une révolution des idées qui fait que, voilà, on doit pouvoir se libérer de ce corpus rigide de textes. Alors, ça peut paraître choquant.
Ah non, mais il faut parfois peut-être choquer dans le sens où on donne le coup de bambou à celui qui médite longtemps et qu'il sorte de sa léthargie. J'emprunte la métaphore aux bonzes ou aux lamas bouddhistes.
Tout à fait.
Cher Fawzia Sharfi, je vous suis en comprenant bien, il vaut mieux peut-être pour un croyant ou une conscience croyante musulmane, homme ou femme, revenir plutôt à la référence première et au texte premier qu'est le Coran. La Sunna, finalement, il y a beaucoup de choses à revoir. Et vous prenez l'exemple, et vous lui avez consacré quelques pages, des idées réformistes, donc de Mohamed Abdou, 1849-1905. Alors vous dites, sur certains points, il a été d'une grande audace intellectuelle, sur d'autres un peu moins, et je suis enclin à partager votre idée. Alors, quels sont les aspects sur lesquels il est allé loin, et pour son époque, et par rapport à son époque, aujourd'hui c'est une régression, et quels sont les points sur lesquels il fallait peut-être qu'il y eût davantage d'hardiesse?
Alors, vous voyez, on parlait du Coran créé ou incréé.
Lui, il a tranché.
Eh bien, pour Mohamed Abdou, il a tranché. Le Coran est créé. Et c'était une révolution à l'époque, quand même. Mohamed Abdou a émis des fatwas pour un certain nombre de dispositions concernant les produits halal, la viande qui peut être égorgée par des chrétiens ou des juifs. Donc, pour lui, ça permettait.
Et pour lui, si on vit ailleurs que dans un contexte où la société est majoritairement musulmane, on peut manger une viande non égorgée rituellement.
Tout à fait. Alors, autre chose aussi qui parmi ces avancées, c'est la question de l'image. Pour lui, j'aborde donc une des sacrées questions, c'est la question de la représentation, de l'interdiction de la représentation des êtres vivants dans la tradition musulmane. Et Mohamed Abdou dit que on peut représenter des êtres vivants, etc., que au fond, alors c'est ça qui est très intéressant dans cette sa démonstration, c'est qu'il dit il faut replacer le verset coranique qui interdit donc les idoles, etc., dans son contexte, puisqu'à l'époque, donc, il y avait de l'idolâtrie. Et le verset ne traite que de ça, alors que l'interdiction est définie par un certain nombre de hadiths, comment dire,
d'aphorismes du voilà. prophète.
Oui, oui, oui. Alors, là où Mohamed Abdou n'est pas allé aussi loin que en...
Pardon, Fawzia Sharfi. Je reviens simplement de la conséquence de ne pas interdire la représentation, et parce que vous le dites si bien, c'est que tout ce qui en découle, c'est la représentation, ce sont les arts, c'est la sculpture, c'est la beauté, ce sont les belles lettres et les beaux-arts, alors qu'à travers l'histoire, il y avait les miniatures, il y avait aussi des représentations, et que le fait de vouloir les interdire, ça atrophie la créativité artistique.
Tout à fait. Et bon, c'est un chapitre que j'ai écrit avant les autres, en fait. Parce que ça, quand j'étais jeune lycéenne, je me sentais frustrée de n'avoir pas eu, comme ça, dans mon histoire de nos pays, cette peinture qui vous permet de voir comment les sociétés ont évolué, et puis l'expression de créateur, comment on peut représenter la lumière, comment on peut représenter cette peinture de la Renaissance aussi, on met en valeur la perspective. Donc oui, c'est vraiment, pour nous, je trouve que c'est dommage, parce que on a interdit un certain type d'expression artistique. Alors, certains donc ont considéré que de toute façon, il fallait mettre fin à cette représentation. Bon, mais il y a eu des traditions dans le monde persan extraordinaires de miniatures, et il y a même eu, j'en parle beaucoup dans mon ouvrage, des représentations du prophète.
Aussi bien dans l'école persane que sous les Ottomans aussi.
Voilà.
Sous les Safavides d'un côté et sous les Ottomans de l'autre. Les ateliers de Tabriz et d'Ispahan en témoignent.
Et tous ces livres d'histoire avec ces miniatures qui sont absolument magnifiques. Mais aujourd'hui, on peut dire oui, mais aujourd'hui, la question est dépassée. Non, je rappelle qu'il y a eu une interdiction, il y a assez récemment, au Maroc, d'une revue scientifique, Science et Avenir, qui avait, à propos d'un gros dossier sur la question de Dieu, qui avait reproduit deux miniatures qui représentaient le prophète. L'une existe au musée Topkapi et l'autre, je crois, dans un musée à Londres. Donc, vous voyez que la question reste posée. Mohamed Abdou, au 19e siècle, dit mais non, il n'y a pas à maintenir cette interdiction, n'a pas de raison d'être. Alors, là où on se rend compte que ce réformiste donc du 19e siècle n'est pas allé aussi loin qu'il l'aurait pu aller, c'est le fait que quand on affirme, quand les réformistes affirment que voilà, il faut le retour à la raison, oui, mais la raison dans les limites
de la religion.
Donc là, ça n'a pas permis en fait la réflexion d'aller aussi loin que possible. Et c'est au XXe siècle que la rupture se fait avec...
Oui, et ça s'est fait, hélas pour le monde arabo-islamique qui va aller de régression en régression, tragique, c'est que le maître de Königsberg, Emmanuel Kant, dit l'inverse. Il dit « la religion dans les limites de la raison ».
Oui. Et
voilà, alors que Mohamed Abdou dira, lui... la raison à laquelle il lui donne son importance dans les limites la religion révélée de son point de vue. Fawzia Sharfi, vous avez tout à fait raison de laisser place à ce que nous appelons maintenant le fait de sortir de la raison religieuse dévote et laisser place à la raison autonome critique. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Fawzia Sharfi, physicienne et femme de réflexion. J'ai dit, mais sans flagornerie aucune, que c'est une femme d'intelligence et de science. Et là, nous parlons de votre ouvrage « Sacrée question », pour un islam d'aujourd'hui, vous passez en revue, en réalité, Fawzia Sharfi, les raisons de ce que je venais juste de dire, la régression tragique. Donc, après des considérations de type théologique, on va passer à des considérations de type un peu politique. Vous évoquez l'audace et la volonté, le volontarisme même de Bourguiba, et donc il y a là aussi un souffle de modernité qui va, ce vent de modernité va souffler sur la Tunisie, jeune et indépendante, jeune république, et petit à petit, pour contrecarrer ce qu'il appelle le mouvement des gauchistes et qui ne veut plus qu'il y ait un État dans l'État, il fait monter en quelque sorte le discours islamiste. Et vous parlez de cette soirée du 27e jour du mois de Ramadan, 1975, ça vous a marqué, où l'on voit une jeune demoiselle, Chebli, voilée, ce qui est une, encore une fois une régression terrible.
Voilée à la manière... un peu iranienne, idéologique. Oui, tout à fait idéologique. Et donc Bourguiba, celui qui a émancipé les femmes par ce code du statut personnel, donc Hunt Shelby, fait une lecture où elle se définit dans un islam qui est beaucoup plus, on va dire, rigoriste que l'islam prôné par le régime de Bourguiba, avec les mois de Ramadan définis de manière scientifique, avec son appel aussi au jihad économique, c'est-à-dire considérer que voilà, il fallait développer le pays, donc peut-être que
le jihad étant étymologiquement faire un effort,
donc c'était l'effort économique pour le développement économique, et c'était vraiment un choc, parce que vous voyez, c'était une femme qui émettait des réserves sur le modernisme de Bourguiba, et ça a été le moment où effectivement le mouvement islamiste avait gagné une bataille en public.
Et c'est en sa présence qu'elle faisait sa causerie.
En présence de Bourguiba, exactement. Donc voilà, l'histoire est importante, parce que on voit comment avec l'indépendance, on arrive et l'exaltation, la joie de retrouver sa personnalité tunisienne. Bon, des réformes importantes sont faites, mais le même Bourguiba, donc, ne voulant pas être contesté par la gauche, laisse l'islam politique avancer. Cet islam politique a avancé, et ce qui est grave, c'est qu'il a investi, en fait, le domaine de l'éducation, l'école, le lycée, l'université. Je reviens à ce que je disais au début, donc ce que mes étudiants pensaient. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que mon expérience et mon interrogation m'a amené à bien comprendre, que cet islam politique s'est introduit comme une idéologie. Ça n'a rien à voir avec une religion, avec des sentiments, on va dire, de transcendre, cette envie de dépasser le monde matériel, etc. Et il y a eu petit à petit investissement dans les domaines de l'histoire, de la philosophie, de l'éducation religieuse, de l'éducation civique, et à travers toutes ces disciplines, finalement, il y avait une constante, c'est le projet de société des islamistes, c'est-à-dire que la norme religieuse devait être présente partout, dans tous les domaines, y compris dans la connaissance.
Oui, Fawzia Sharfi, ce qui paraît navrant, et peut-être même que le mot est un doux euphémisme, c'est que j'ai une bonne mémoire des dates, c'est que le 13 août 1956, il y a cette réforme au départ qui prendra effet dès le 1er janvier 1957, à la fois du statut personnel, de cette égalité en tout cas en voie d'eux, et entre les êtres humains par-delà le genre, hommes, femmes particulièrement. Et en 75, donc on est à 18 ans plus tard, il y a plutôt cet infléchissement, pas dans le sens que nous souhaitons. Et c'est pour des considérations politiciennes?
Oui, pour des considérations politiciennes. Bon, d'abord, les mouvements de gauche sont difficilement... C'est la liberté, quand même. Et là, cet islam politique, alors on peut s'interroger sur le fait que, finalement, il a réussi à se faire entendre. Oui, il est vrai qu'il y a, en Tunisie, une société conservatrice qui a pu être séduite par le fait que, voilà, il y a quand même un retour à la morale religieuse. Alors, conservatrice et conformiste, parce que je pense que le conformisme a beaucoup joué sur l'acceptation, en fait, de cet islam politique qui, pour moi, est très différent de l'islam de la tradition. Et si je peux me permettre, bon, la famille de mon mari, la famille Charfi, était une famille de Chir, très traditionnelle, etc. Et je voudrais dire que ce milieu traditionnel était tout à fait dans le respect de l'autre. Donc, vous voyez que dans l'islam politique, non, il y a une volonté d'endoctrinement et de formatage des enfants, alors que, bon, jusque-là, nous vivions un islam, on va dire, plutôt tranquille, bien sûr, sous le poids de la tradition, c'est vrai, qui régissait donc le droit traditionnel. Mais lorsque les islamistes ont commencé à prendre de la place au niveau de... Ils ne se sont pas gênés de toucher à l'éducation de nos enfants, de considérer que certaines théories scientifiques, en tout cas c'est le cas aujourd'hui, ne doivent plus être enseignées. Bon, en particulier aujourd'hui, la grande question de la théorie de l'évolution. Et donc les islamistes ont rejoint en fait les créationnistes, alors que dans la tradition, on va dire intellectuelle, au contraire, on a eu le Jihad, on a eu jusqu'à Ben Khaldoun qui considérait qu'il y avait une évolution des espèces. Donc oui, vous voyez la régression intellectuelle.
Al-Jahed, pour donner une idée, il est mort en 868, fin du 9e siècle, un grand esprit, certains le comparaient plus tard à la Bruyère. Et c'est pour dire que là aussi, c'est pas pour dire que les musulmans furent grands, mais à un moment donné, il y avait une réelle pertinence dans les propos et de recherche et de liberté que nous ne retrouvons pas. Et vous expliquez ça par les deux mots, Amaouix, le wahhabisme et les frères musulmans.
Voilà. Le wahhabisme, donc, qui refuse, le wahhabisme, donc, qui est né dans ce désert de Najd au XVIIIe siècle et qui refuse la culture, qui refuse l'art, qui refuse la musique, qui refuse la philosophie et qui, au départ, en fait, s'inscrivait comme en opposition à l'islam des roulemains, c'est-à-dire des hommes de sciences religieuses. Bon.
C'est soi-disant une sorte de purification, de revenir pour débarrasser ce que pour Mohammed ibn Abdel Wahhab, 1703-1792, comme ça on donne sa trajectoire de vie avec la date de naissance et la date de mort, et que pour lui, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il fallait revenir à la tradition, enfin à la religion purifiée de ses scories.
Voilà, la religion purifiée de ses scories et s'attaquer à ces hommes de religion qui acceptaient, qui fermaient les yeux sur certaines pratiques, etc., et qui, donc, Ibn Abdel Wahhab, qui a scellé donc ce pacte avec l'autorité, avec le roi. Donc, c'est le religieux, le chir et le prince. Bon, mais on aurait pu penser que cette manière de concevoir l'islam n'allait quand même pas sortir de cette région, de cette... région qui, à l'époque, était complètement isolée, en fait, de l'extérieur. Ça n'était pas une réaction à la modernisation, à l'époque. C'était plus une réaction par rapport à la tradition. Et puis, bon, il est vrai que les moyens financiers dont ont pu bénéficier, grâce au pétrole, certains pays, a fait que, voilà, cette manière ultra rigoriste de concevoir la religion, c'est aujourd'hui propagé et grâce aussi aux avancées de la science, c'est-à-dire grâce aux technologies actuelles, malheureusement.
Parce qu'un terrible paradoxe, c'est que ce qui est une technologie instrumentale est utilisé par les islamistes. En revanche, ce qui relève d'une science réfléchie pour elle, celle-là, elle est plutôt dédaignée. Comme nous arrivons au terme de l'émission et l'entretien avec vous passe très vite, Fawzia Sharfi, peut-être encore un mot sur ce qui apparaît comme une arnaque ou une escroquerie à la fois morale et intellectuelle, voire politique, c'est le fait de considérer le Coran comme la constitution de l'État national par les frères musulmans.
Voilà. Alors, donc, on parlait de l'islam wahhabite. Les frères musulmans, c'est 1928 en Égypte, donc, qui commence. Et à ce moment-là, le credo des frères musulmans, c'est de dire, voilà, notre constitution, c'est le Coran. Notre vie, c'est le jihad. Donc, et notre souhait, c'est le martyr. Donc, vous voyez qu'il faut comprendre aujourd'hui que ce qui nous arrive aujourd'hui, ces jeunes aussi, bon, je ne veux pas donner d'explication, mais je dirais que cet islam politique, il faut bien le connaître pour savoir comment protéger notre jeunesse d'une vision terrible, en fait, d'une vision qui, de l'islam qui n'est pas du tout conforme à ce que doit être, voilà, l'islam apaisé. Je reviens sur ce terme-là parce qu'il m'est cher, et un islam qui permet le partage des idées. Ça a été dans ce monde musulman où les savants circulaient, les philosophes aussi, etc. Donc, voilà, cet islam apaisé, pour moi, c'est l'islam de l'échange, l'islam du partage des valeurs universelles. C'est ce que refuse l'islam politique, qui a un projet bien défini, donc, entre autres, avec le refus des institutions établies par des hommes.
Oui. Alors, chère Fawzia Sharfi, là, nous finissons l'émission avec vous, avec ce plaidoyer vibrant pour une vision du monde. Les germanophones auraient parlé d'une Weltanschauung, d'un islam apaisé, un islam de beauté, d'intelligence, de spiritualité et de valeurs universelles. Nous étions, en tout cas sur France Culture, nous le sommes toujours, l'émission Questions d'Islam. Et aujourd'hui, nous avons reçu Fawzia Sharfi à propos de son livre Sacrées Questions, au pluriel, pour un islam d'aujourd'hui, édité par Odile Jacob. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manuel Couturier et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.